RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la voix de l'Indonésie en langue française. Je m'appelle Yubi Surianto et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, samedi. Il est 3h du matin de temps à Jakarta maintenant. Chers auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journal, suivi de les nouvelles de l'Indonésie, aujourd'hui dans l'histoire indonésiaco. Et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel et suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission à la rubrique distraction, c'est-à-dire le magazine musical indonésien. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La voix de l'Indonésie, les informations.
C'est celui de TIS, voici le journal d'aujourd'hui. Intitulé L'Indonésie déclare son engagement de l'enforcement du secrétariat de l'ASEAN. La ministre indonésienne des Affaires étrangères a souligné le rôle important du secrétaire général et du secrétariat de l'ASEAN. Voici le bulletin complet. L'Indonésie, en tant qu'hôte, s'est engagée à renforcer les capacités de l'ASEAN, notamment le secrétariat de l'ASEAN. Il a été déclaré par le ministre des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, à l'inauguration du nouveau bâtiment du secrétariat de l'ASEAN vendredi à Jakarta. Dans son discours, le ministre Retno a déclaré que le développement du nouveau bâtiment du secrétariat de l'ASEAN devrait être achevé en 2019. Il devrait également obtenir le soutien de tous les États membres de l'ASEAN afin que le secrétariat de l'ASEAN puisse travailler plus efficacement. Retno Marsudi a ajouté que le nouveau bâtiment du secrétariat de l'ASEAN sera construit en 6 étages et 2 tours. Le nouveau bâtiment sera également décoré par l'ornement de Betawi en tant que représentant de Jakarta.
Indonesia as the host of ASEAN secretariat remains strongly committed.
L'Indonésie en tant qu'hôte du secrétariat de l'ASEAN reste fermement déterminée à renforcer les capacités du secrétariat de l'ASEAN, y compris l'infrastructure et les installations du secrétariat. Le nouveau bâtiment du secrétariat de l'ASEAN sera construit immédiatement et la construction sera achevée dans 2 ans. Ce bâtiment emblématique sera achevé en 2019 et le bâtiment comprendra 6 étages et 2 tours avec la touche de la couture de Betawi pour son intérieur. Le soutien de tous les pays membres de l'ASEAN est nécessaire pour les nouveaux travaux du secrétariat de l'ASEAN. Encore une fois, pour que le secrétariat de l'ASEAN puisse s'adapter, s'attendre de travailler de manière plus efficace et plus innovante. L'inauguration a été menée par le ministre Retno Marsudi, assisté par le nouveau secrétaire général de l'ASEAN, Dato Lim Chokhoi, et le gouverneur de Jakarta, Anies Baswedan, et plusieurs ambassades des pays amis et des représentants étrangers en Indonésie. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, a souligné que le rôle important du secrétaire et du secrétariat de l'ASEAN dans le soutien des objectifs de le développement communautaire de l'ASEAN, s'exprimant lors de la cérémonie de la remise du pouvoir du secrétaire général de l'ASEAN du Luang Min à Dato Lim Jok Hoi vendredi à Jakarta. La ministre Retno a déclaré que l'ASEAN, en tant que communauté régionale, sera en mesure de travailler plus réactive et pertinente, notamment de donner le soutien parmi les pays membres dans la région, ainsi que d'assurer que la vision de l'ASEAN 2025 peut être atteinte.
We are also in the process of realizing ASEAN Vision 2025. Against this backdrop, the role of ASEAN.
Nous sommes également en train de réaliser la vision de l'ASEAN 2025. Dans ce contexte, le rôle du secrétaire général de l'ASEAN et du secrétariat de l'ASEAN est très important pour aider l'ASEAN à atteindre ses objectifs d'institutionnalisation et de développement communautaire, pour que l'ASEAN puisse être plus réactive et pertinente en fournissant un soutien et des conseils pour assurer que l'acte soit orienté au progrès de notre engagement. En outre, la ministre Retno estime que l'ASEAN entre actuellement dans la deuxième passe de son mandat de 50 ans. Actuellement, selon elle, des défis dans les raisons telles que les conflits territoriaux ou le terrorisme apparaissent souvent. En plus de fournir des avantages aux personnes et de jouer un rôle important dans le maintien de la paix et de la stabilité dans la région, selon elle, l'ASEAN doit contribuer davantage au développement mondial. Elle a souligné que l'ASEAN avait besoin de l'unité pour renforcer son rôle dans la communauté mondiale et renforcer la centralité de l'ASEAN. Le président de l'Indonésie, Joko Widodo, le 25 janvier 2018, a le projet d'effectuer une visite de travail en Inde. La visite de travail a été organisée pour assister à la 25e commémoration de la coopération ASEAN-Inde et à la journée de la République de l'Inde. C'est ce qu'a transmis par le directeur du ministère des Affaires étrangères de l'Asie du Sud et de l'Asie centrale, Felipe, lors d'une conférence de presse jeudi le 4 janvier 2018 à Jakarta. Ferdi a ajouté qu'à cette occasion, le président de la République d'Indonésie tiendra également une réunion bilatérale avec le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi. Lors de la réunion, il est prévu que le président de la République d'Indonésie puisse encourager le premier ministre de l'Inde à faire sa visite bilatérale en Indonésie dans son proche avenir. Pour améliorer les exportations, le ministère du Commerce continue de pénétrer le marché d'exportation vers des pays non traditionnels. Le ministre indonésien du Commerce, Enggar Tias Tolukita, a déclaré lors d'une conférence de presse récemment à Jakarta qu'à la fin de l'année 2017, l'Indonésie et le Chili avaient signé l'accord de partenariat économique global, ou APEG, entre l'Indonésie et le Chili afin de supprimer les droits d'importation au Chili à 0% pour 7369 tarifs douaniers ou plus de 7000 du Chili. Le Chili a également réduit le tarif de 50% contre presque 200 autres produits indonésiens. Selon lui, l'accord de coopération avec le Chili ouvrira la voie à la coopération avec d'autres pays d'Amérique latine.
Kenapa Chili kita masuk duluan? Ini pasar baru dan yang kedua ini juga masuk.
Pourquoi nous entrons d'abord le Chili? Car il est le nouveau marché. Le deuxième est également entré dans l'alliance du Pacifique qui se compose du Chili, du Pérou, du Mexique et de la Colombie. Nous irons à l'exportation vers le pays. Impressionné, loin mais il s'avère que le commerce du Vietnam avec le Chili atteint 1,2 milliard de dollars américains, alors que l'Indonésie a fléchi environ 250 millions de dollars américains. Selon le ministre Enggar Tias Tolukita, en plus du Chili, dans le cadre de la coopération bilatérale en 2017, les négociations qui ont été menées avec la Palestine, l'Indonésie et la Palestine ont signé un mémorandum d'accord sous la forme d'une application du droit d'importation de 0% pour les deux pays. L'application d'un droit d'importation de 0% sur les produits palestiniens est commencée par les dattes et l'huile d'olive. D'un autre côté, la Palestine présentera une liste des produits qui doivent être importés d'Indonésie et les Palestiniens appliqueront le même droit d'importation de 0%. Le dernier. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a reçu la visite de son homologue indien, Sushma Swaraj. Vendredi 5 janvier, a déclaré le porte-parole du ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Arman Atanasi, récemment. Selon Arman Atta, l'objectif principal de la visite de la ministre indienne des Affaires étrangères en Indonésie est de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays, en particulier dans le domaine de l'économie et de la coopération régionale. C'est ce l'utilité, c'était notre journal pour aujourd'hui. À demain.
Chers amis, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie, un programme qui présente diverses infos intéressantes de divers coins de l'Indonésie dans une semaine. La première info vient de Yogyakarta. Le bureau du tourisme de Yogyakarta se prépare à développer des destinations touristiques réparties dans le sud de la région selon la vision du gouverneur de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Le directeur du bureau du tourisme de Yogyakarta, Aris Rianta, a annoncé mercredi à Yogyakarta que les destinations touristiques dans la région sud de Yogyakarta ont un grand potentiel pour attirer les visites touristiques, en particulier pris en charge par un littoral qui s'étend sur 113 km dans le sud de la province. Il y a beaucoup de belles plages à cette région, à savoir les plages d'Epok et Parangtritis à Bantul, les plages Chongot et Trisik à Kulon Progo, ainsi que les plages Baron Nglambor et Drini à Gunung Kidul. Ce potentiel semble être encore plus si le projet de la ligne de la route de Croix Sud qui traverse Gunung Kidul pourrait être achevé en 2018. L'expansion du tourisme dans la région sud de Yogyakarta vise également à fournir des solutions au niveau élevé de pauvreté dans la région. Aris a déclaré que le développement des destinations touristiques dans la région sud est commencé par le développement des ressources humaines et matérielles du tourisme du gouvernement local intensifié ensemble par les gouvernements de régions Bantul, Gunung Kidul et Kulon Progo. Ensuite, l'info de Banda Aceh en province Aceh. Plusieurs 706 646 touristes locaux et étrangers ont visité le musée tsunami d'Aceh pendant l'an 2017. Le coordinateur du musée tsunami d'Aceh, Al-Muniza Kama, a déclaré mercredi à Banda Aceh que le plus grand nombre de visites a eu lieu en mai 2017. Le nombre de visiteurs dans le mois était 118 693. En décembre 2017, le nombre de visiteurs était 79 459 personnes. Selon lui, l'augmentation de visites en mai 2017 est due qu'il y a une activité de la Semaine nationale du contact d'agriculture et de pêcheurs Kontang, soit PENAS KTNA, centré au stade Harapan Bangsa Long Raya, Banda Aceh. À ce moment-là, PENAS KTNA était suivi par des dizaines de milliers de personnes de toute l'Indonésie. Al-Muniza a déclaré que le musée tsunami d'Aceh continue de s'efforcer d'augmenter le nombre de visites en organisant d'autres activités en 2018. La dernière info vient de Bogor, Jawa West. Les visiteurs du Jardin botanique de Bogor, Jawa West, au premier jour de l'an 2018, lundi, a explosé à 24 466 personnes. Ce nombre est augmenté par rapport au 1er janvier 2017. Le chef de sous-division de la coopération et de l'information du Centre de conservation des plantes du Jardin botanique Bogor, Rosniati Apriani Risna, a dit qu'au long des vacances de Noël et du Nouvel An 2018, le Jardin botanique Bogor est toujours bondé de touristes nationaux et étrangers. Le plus grand nombre de visiteurs a eu lieu le premier jour de la nouvelle année. D'après les données du Centre de conservation des plantes du Jardin botanique, le 23 décembre 2017, le nombre de visiteurs est relativement normal, autant que 5650 personnes. L'augmentation considérable de visiteurs était au 26 décembre 2017, atteignant 12928 personnes. Le Jardin botanique Bogor est devenu l'une des destinations touristiques à Bogor, le plus aimé par la communauté de Jakarta. Bogor d'époque étant grand et de l'extérieur de la région. Le Jardin botanique de Bogor a une superficie de 87 hectares et sauvegarde 40 057 collections de plantes ayant des centaines d'années. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id. Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 6 janvier. Le 6 janvier 1919, Theodore Roosevelt est décédé. Theodore Roosevelt est le 26e président des États-Unis. Il a été à deux reprises au pouvoir de 1901 à 1909. Avant de devenir président, Roosevelt était le vice-président des États-Unis sous la présidence de William McKinley. Theodore Roosevelt est également connu comme T.R. et dans la communauté, il était connu sous le nom de Teddy. La position de président a été obtenue quand Roosevelt a remplacé le président assassiné William McKinley. À l'âge de 42 ans, Roosevelt avait été nommé le plus jeune président des États-Unis. Roosevelt est venu des Républicains. Au premier mandat, il n'avait pas de vice-président. Puis, au deuxième mandat, il était accompagné du vice-président Charles W. Fairbanks. Le président étant proche parent du président Franklin Delano Roosevelt, le 32e président des États-Unis. Le 6 janvier 1980, Indira Gandhi a remporté la majorité de son peuple et est retournée au premier ministre de l'Inde. Mais, le 31 octobre 1984, en raison de sa politique répressive contre le groupe Sikh, Indira a été abattue par son propre gardien étant Sikh. Indira a été élue Premier ministre de l'Inde en 1966 pour remplacer le premier ministre d'alors, Lal Bahadur Shastri, qui est mort subitement. En 1971, Indira remporte les élections nationales et redevient premier ministre. Cependant, en 1975, elle a été condamnée pour fraude avérée à l'élection de 1971. Indira rejette la punition et déclare d'être innocent. Elle a ensuite imposé une situation d'urgence en Inde. Pendant cette période, Indira a exercé des contrôles stricts sur divers aspects de la vie en Inde et a emprisonné de nombreux opposants. En 1977, Indira a tenu une élection pour réprimer la critique qu'elle avait piétiné la démocratie en Inde. Cependant, cette fois, Indira Gandhi a perdu et a été assommée du siège de premier ministre. Le 6 janvier 1970, Pan Am, la première compagnie aérienne commerciale servant la route autour du monde. Fondée le 14 mars 1927, Pan America Airways est devenue l'une des premières compagnies aériennes commerciales à servir les routes aériennes du monde entier. Dans la période d'avant la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise avait déjà un réseau de routes aux États-Unis, en Europe et en Asie. Entrant dans la Seconde Guerre mondiale, les avions Pan American Airways ont été utilisés par l'armée à des fins militaires. Ce n'est qu'en 1947 que la compagnie aérienne a commencé à réopérer avec un service mondial avec un avion Lockheed Constellations appelé Clipper America. Les itinéraires de vol incluent San Francisco avec des arrêts à Honolulu, à Tokyo, à Hong Kong, à Delhi, Istanbul, à Francfort, à Londres et à New York. Juste le 6 janvier 1970, cette route de service mondial a été réalisée avec une route initiale de New York et la route finale de New York avec l'avion Boeing 707. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
La Voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec Mon Indonésie et un beau titre. Les exportations indonésiennes dépassent la cible qui devrait augmenter de 7%. Le ministère du Commerce continuera d'améliorer ses résultats à l'exportation après avoir réalisé des réalisations remarquables tout au long de 2017. Lors d'une conférence de presse jeudi à Jakarta, le ministre du Commerce Enggar Tias Tolukita a expliqué qu'en 2017, la valeur des exportations indonésiennes atteignait 170,3 milliards de dollars américains, dépassant l'objectif. Cette valeur comprend les exportations de pétrole et de gaz de 15,5 milliards de dollars américains et les exportations non pétrolières de 154,80 milliards de dollars américains. Les exportations non pétrolières ou non gazières ont augmenté de 17,20% entre janvier et décembre 2017 et ont enregistré la plus forte croissance depuis 2012. Les mesures stratégiques prises par le ministère du Commerce pour stimuler les exportations indonésiennes sont la facilité d'exportation et d'importation, ainsi que la sécurité du marché et l'accès accru au marché. Le moyen consiste à mener la déréglementation et la débureaucratisation, la facilitation et la facilité d'exportation, importation des petites et moyennes industries et la sécurité de l'accès au marché. Enggar Tiesto Lukita a expliqué, pour améliorer l'accès au marché, il continuera de bénéficier des accords commerciaux et de la coopération, de l'achèvement des négociations commerciales internationales, de l'ouverture des négociations commerciales internationales et de la ratification des accords commerciaux internationaux. Le prochain effort est de développer des produits et des marchés d'exportation, à savoir des expositions à la maison et à l'étranger, et la mise en œuvre de Trade Expo Indonesia, la mise en œuvre de missions commerciales, des missions d'achat et des forums d'affaires. En outre, le développement de la conception et la qualité des produits d'exportation, la relocalisation et la réorientation des représentants commerciaux à l'étranger, le développement des ressources humaines à l'exportation est également fait pour stimuler les exportations. Cependant, le directeur général du développement national des exportations du ministère du Commerce, Arlinda, a déclaré que l'année prochaine, l'entreprise vise une augmentation des exportations allant de 5 à 7%. Selon Arlinda, afin d'augmenter les exportations cette année, l'Indonésie va offrir le nouveau marché aux pays non traditionnels. Cette augmentation d'exportation va être soutenue par l'accord de coopération commerciale avec un nombre de pays cette année. Arlinda a expliqué, le ministre du Commerce a fait une mission commerciale à l'Afrique, Nigeria, l'Égypte, Chili, Russie. Pour cette année, la mission commerciale de l'Indonésie tentera d'explorer Taïwan, le Kazakhstan, l'Algérie, l'Inde, le Maroc, l'Arabie Saoudite et les pays de l'ASEAN qui sont tout à fait potentiels, à savoir le Cambodge et le Vietnam. Chers amis, c'était mon Indonésie.
La voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la plage Batu Kapal en province Moluk. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie. La Voix de l'Indonésie à www.boi.co.id. La plage Batu Kapal est située au village Liliboy, district Leihitu West, en région Moluk Central. Bien qu'il n'inclut pas à la ville Ambon, qui est la capitale de la province Moluk, cet endroit est encore un continent avec la ville Ambon. Pour aller à la plage Batu Kapal Liliboy, ou mieux connue comme la plage Batu Lobang du centre-ville d'Ambon, ce n'est pas trop loin. De l'aéroport Patimura, en véhicule à moteur, on nécessite environ 20 minutes. La plage Batu Kapal, ainsi appelée parce que sa forme est similaire à la plateforme du navire. La route qui mène à la plage Batu Kapal est très bonne. De plus, la vue sur le côté gauche de la route est très belle. Mais vous devez également faire attention aux panneaux de la route à la plage Batu Kapal parce que le signe n'est pas grand, seulement un tableau noir de 60 × 20 cm avec les mots plage Batu Kapal Liliboy accroché près du toit d'une hutte. Ce chalet est la porte d'entrée à la plage Batu Kapal. Le billet d'entrée à la plage Batu Kapal est 5000 rupiah pour les adultes et 3000 rupiah pour les enfants. Du chalet qui est la porte, vous devez encore descendre les escaliers environ 250 mètres. La plage Batu Kapal est divisée en deux parties, la plage antérieure et la plage extérieure. Après avoir descendu les escaliers, vous verrez l'extérieur de la plage Batu Kapal. Ici, il n'y a pas de sable blanc. Il n'y a que des pierres et de la mer bleue. Si vous voulez vous détendre, c'est à l'extérieur. Ici, vous pouvez vous asseoir tout en profitant de la belle vue sur la plage. De l'extérieur de la plage Batu Kapal, on peut voir des grandes roches qui ressemblent exactement à un navire. La partie évidente est la plateforme et un trou qui ressemble à la fenêtre d'un navire. La plage Batu Kapal est entourée de falaises rocheuse située à l'intérieur. Pour atteindre l'intérieur de la plage Batu Kapal est en effet difficile car c'est nécessaire d'avoir la capacité de grimper et de ramper. À l'intérieur de cette plage, vous pouvez nager librement sans avoir peur d'être emporté par les vagues. Sa place est entourée de falaises qui rendent les vagues sur la plage antérieure si calmes. L'eau ici est très claire, tandis que la profondeur varie de 30 cm à environ 2 mètres. Mais en nageant, il faut faire attention car les roches sont assez pointues. À l'intérieur de la plage Batu Kapal est moins adapté pour se détendre, car il n'y a pas d'endroit adéquat pour s'asseoir et se reposer. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. À demain. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, informant sur le transport de masse de l'autobus Surabaya. Donc, restez toujours avec nous. Le service mondial de Radio République Indonésie à la Voix de l'Indonésie à www.voi.co.id. Pour ceux d'entre vous qui visitent la ville Surabaya à Java Est, notre voyage sera plus confortable entourant cette ville parce que le gouvernement de la ville Surabaya opère immédiatement un transport de masse appelé Surabaya Bus, soit l'autobus Surabaya. Les 8 nouvelles flottes de bus devraient être le moyen de transport qui soutient le transport de masse rapide AMC et de LRT, Light Rail Transit. Le gouvernement de la ville Surabaya a essayé l'autobus Surabaya depuis le jardin Surya du gouvernement de Surabaya jusqu'au pont Surabaya le 29 décembre dernier. Ce nouveau bus va servir la route terminale Purabaya, Nungurasi, Joyoboyo, Tunjungan Plaza, Siola, aller-retour. L'autobus Surabaya a son propre avantage. À l'intérieur, il est disponible des installations LED pour l'information, la climatisation complète, ainsi que des sièges séparés pour les femmes, les hommes et les sièges pour les femmes enceintes et handicapées. La séparation de la zone vise à minimiser le harcèlement sexuel dans l'autobus. Le bus est également très sympathique pour les personnes handicapées. Il y a un bouton spécial près de l'entrée qui, si on le pousse, le chauffeur adjoint aidera les personnes handicapées à monter dans le bus. Au bas de l'entrée, il y a un levier qui, s'il est tiré, peut être passé par un fauteuil roulant. L'autobus, qui a une longueur de 12 mètres et une largeur de 2,4 mètres, est capable d'accueillir 67 passagers. Pour la commodité des passagers, la porte du bus s'ouvrira automatiquement et si la porte n'est pas fermée, alors ce bus ne partira pas. En ce qui concerne la technologie, l'autobus Surabaya est sophistiqué. Il dispose de 9 caméras de surveillance à chaque coin à l'intérieur de l'autobus et de 3 caméras à l'extérieur pour assurer la sécurité des passagers. En cas d'urgence, cet autobus est équipé d'un système de boutons de panique. En cas d'incendie ou d'accident, le conducteur du bus peut appuyer sur la touche, l'alarme retentit et la porte du bus s'ouvre automatiquement. L'autobus Surabaya peut également être dit anti-embouteillage car il a été intégré avec le système de réglage de feu de circulation qui deviendra automatiquement vert si l'autobus passe. L'autobus Surabaya est prévu d'être en service le mai 2018. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Au revoir. Les couleurs, un programme sur des informations actuelles.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Ses amis de la Voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde, voici le magazine de musique édition de samedi. Avec moi, Yubi, ce soir, on voit présent les chansons de chanteur Dirabons, la nouvelle chanteuse dans le monde musical en Indonésie. Bon, pour mieux connaître Dirabons, allez écouter la première chanson de Dira intitulée Bara. Bonne écoute. Menyebar Ses amis, c'était la chanson de Bara chantée par Dira Bons. Son vrai nom est Nadira Soraya Nasution. Elle est née à Jakarta, puis elle a déménagé à rester à la ville de Bandung. Ses créations sont uniques. On dit qu'elle présente le genre de musique de jazz, mais elle mentionne sa musique explorative pop jazz. Elle n'est pas seule dans la présentation de l'explorative pop jazz, bien qu'elle soit musicienne solo. Mais quand elle se présente au stade, ses amis l'aident comme ceux qui jouent de la flûte, saxophone, le violon, percussion, clavier et la batterie. Bon, ses amis, avant de continuer notre raconte, écoutez d'abord l'autre chanson de Dira Bons intitulée Puncak Pohon Bandung. Bonne écoute. Les amis, vous venez d'écouter la chanson Puncak Pohon Bandung chantée par Dira Bons. Les amis, vous avez Dira Bons a lancé 2 albums et 4 pistes. Son premier album, Precious, a été lancé en 2013. Cependant, son deuxième album, Head Over Heels, a été lancé en 2016. Pour 4 pistes, la son Puncak Pohon Bandung, Really Do, Make Me Fall In Love et Struggling. Dirabons, elle se présente souvent à Stasker le studio, c'est-à-dire l'album musical. Elle a fait des tours n'importe quelle ville à pays comme Bandung, au Japon, où c'est un festival de jazz national et international. Grâce à ses créations et performances, elle a beaucoup de fans. Je n'ai jamais cité le magazine de musique avec jeune musicienne Dirabons. Et avant de vous quitter, écoutez deux dernières chansons de Dirabons, Struggling et Make Fall in Love. Merci de votre attention et au revoir, à la prochaine fois.
I talk to your honey, yeah. Give it up, I don't give it up. It's just can be sincere in your life. No matter how hard it is, God's always by your side. Don't be scared to choose what's in your heart. Please be strong, cause you are the light. Please tell me you're gonna get things done in your life. No matter how hard it is, you must fight. Don't ever give it up, I don't give it up. Just still feel like you could. Give it up, I don't give it up. And I talk to you, honey, yeah. Give it up, I don't give it up. It's just gonna feel the same. I talk to you,
merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5 Jakarta 10110 ou PO Box 1157 Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.